près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Radio France, partenaire du prix Philippe Chaffanjon. Vous êtes reporter, participez à la 9e édition. Si en 2021, vous avez réalisé un reportage publié sur un site français ou haïtien, inscrivez-vous jusqu'au 31 décembre pour ce prix remis par le président du jury, Pierre Aski, et en présence du président d'honneur, l'académicien Dany Laferrière. Toutes les infos sur radiofrance.com.
France Inter M.
Machine de cirque à la Scala Paris jusqu'au 1er janvier. Machine de cirque, dynamique compagnie de Québec, enfin de retour à Paris après une tournée mondiale triomphale. Tantôt comique, tantôt nostalgique, ces personnages déjantés manient de main de maître des instruments aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie et même la serviette de bain. Un régal de voltige, de musique, de jonglage, de rire à partager en famille. Machine de cirque, actuellement à la Scala Paris, un spectacle France Inter.
Bonne journée sur France Inter, il est 13h. Le 13-14, Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour, bienvenue dans ce 13-14, minutes de silence, échange en cours, une plaque, un établissement scolaire au nom de la victime, à la recherche du juste hommage pour Samuel Paty, hommage dans tous les établissements scolaires en France.
Samuel Paty est un héros du quotidien, c'est un héros de la République, on pensera toujours un peu à lui. C'est quelque chose qu'on partage tous ensemble dans l'éducation nationale, élèves, professeurs, personnel. Oui, Samuel Paty aurait pu être chacun d'entre nous.
Le principal d'un collège à Dijon ce matin, le recteur de la mosquée de Paris et les imams sont venus se recueillir devant le collège où enseignait le professeur d'histoire et géographie. Hommage rendu aussi dans les établissements scolaires. Nous serons à Beauvais, dans le lycée professionnel Les Jacobins avec Sonia Princé. Les autres titres, Laetitia Gaillet.
16 octobre 2020, 17 octobre 1961, quand deux faits dramatiques bousculent la République. Demain, Emmanuel Macron pourrait faire un geste concernant la répression sanglante de la manifestation des Algériens à Paris, reconnaître la responsabilité de la police. Un chèque carburant sur le modèle du chèque énergie pour aider les foyers les plus modestes. Le gouvernement y planche, mais ça risque d'être un peu plus compliqué à mettre en place. Et puis la fin des bouteilles plastiques dans les TGV et intercités. Beyrouth sous tension après les violences d'hier. Avec Charlotte Piret, on ira également dans les coulisses du procès des attentats de novembre 2015. Ce que nous disent les témoins du Bataclan du moment et de l'après-attentat. Et avec Corinne Pellissier, on écoutera les voix de deux revenus. Non, Stromae et Adèle.
Et dans la deuxième partie de ce 13-14, nous recevrons Stéphanie Thomas, notre consoeur de France Culture, qui publie « Mal de mère » chez Lattès, ainsi que la psychanalyste Monique Biglowski, auteure de « Devenir mère » publié chez Odile Jacob. Et nous évoquerons la question douloureuse des femmes qui regrettent d'être mères. Votre feuilleton est le dernier épisode dans la vie de la militante et entrepreneur sociale Alice Barbet. C'est une chanson, Frédéric Pommier. Aujourd'hui, le rappeur Gringe et une chanson de Christophe, le vif de l'histoire, Jean Lebrun. Et l'hommage à Hubert Germain, le dernier compagnon de la libération. Le 13-14, c'est parti.
France Inter. Deux jours, hommage pour ne pas oublier ce jour-là. Quand le 16 octobre 2020, Samuel Paty a été tué, décapité pour avoir fait un cours sur les caricatures de Mahomet. Les premiers à rendre hommage ont été le recteur et les imams de la mosquée de Paris. Ils se sont recueillis ce matin devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Hommage aussi dans les établissements scolaires partout en France, du CM1 à la terminale. Minute de silence, échange en cours, libre à chacun d'organiser son heure. Sonia Princey, vous vous êtes rendue, vous, ce matin, dans un lycée professionnel, les Jacobins, à Beauvais, dans l'Oise, où une cérémonie a été organisée dans le jardin du lycée, c'est ça hein ?
Oui, au pied d'un arbre planté l'an dernier en hommage à Samuel Paty, des élèves et des professeurs ont déposé des roses, beaucoup de tristesse sur les visages.
L'émotion nous étreint toujours. Notre combat n'est pas la haine, c'est bien de faire que l'esprit des Lumières vive.
Après le discours du proviseur Xavier Mouchard, une lycéenne a lu le poème « Liberté ».
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Auparavant, dans les classes, les enseignants avaient échangé avec leurs élèves, comme Isabelle Vasseur, professeure de commerce.
J'ai commencé par leur parler de Samuel, et puis après on a discuté, puis après on a embrayé sur le cours, et j'ai dit qu'à 11h30 on ferait une minute de silence. Alors pour moi c'est très important. En tant que professeur c'est très important, parce que je trouve qu'il y a une montée de la violence, et je pense que c'est très important de revenir dessus pour voir comment ils réagissent, pour voir si pour eux ça a été violent, pourquoi est-ce qu'on peut faire des violences comme ça aux professeurs, etc.
Revenir encore et encore sur la notion de vivre ensemble, c'est indispensable selon les élèves aussi, parmi eux Marine.
Il y a même encore des gens dans la classe qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il y en a même, ils disent que c'est la faute du professeur, alors que le professeur n'y est pour rien du tout, il y a juste eu un malentendu. Il faut faire comprendre qu'il ne faut pas faire ça, que c'est pas bien de tuer un professeur rien que pour ça, ou même de tuer quelqu'un tout court. Il faut revenir sur le fait qui s'est passé, que c'est super choquant et que c'est de pire en pire au fur et à mesure des années.
Le travail sur les valeurs de la République et la laïcité va se poursuivre toute la semaine prochaine dans ce lycée.
Sonia Princey avec Virginie Lorda pour les moyens tactiques. Merci à tous les deux. Les hommages se poursuivront aussi demain. Une plaque à l'entrée du ministère de l'Éducation nationale, un square de Samuel Paty sera inauguré face à la Sorbonne à Paris lors d'une cérémonie que la mairie de Paris veut simple et recueillie. Et puis les parents de Samuel Paty seront reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée dans l'après-midi. Dans cette période où l'on parle de liberté d'expression, cette histoire à Nantes. Depuis quelques jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle montre des adolescents dans une soirée d'anniversaire qui imitent une prière de l'islam et on y entend des rires. Ce court extrait de 17 secondes remonte à janvier dernier, mais il vient d'être exhumé et reposté sur divers réseaux sociaux comme Twitter ou encore TikTok. Depuis, les lycéens ont été identifiés, leurs noms lâchés sur les réseaux sociaux et dans cette période, donc, il y a des menaces et des messages de haine. Le parquet de Nantes a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit. À Nantes, Mathieu Bonnour s'est rendu, lui, devant l'établissement des lycéens.
Si la police est là, c'est parce qu'il y a deux jours, une quinzaine de personnes est venue pour en découdre à la pause déjeuner, comme le raconte une des élèves.
Cagoulé, tout en noir, il menaçait du coup les jeunes, il cherchait les petits qui étaient sur la vidéo. C'est quand même, c'est pas rassurant en fait. Même nous, on se sent quand même un peu en danger quoi.
Devant le lycée, les élèves sont nombreux à témoigner de leur inquiétude. Ils expliquent que leurs camarades filmés dans cette vidéo ne peuvent même pas sortir seuls de l'établissement. Leurs parents doivent venir les chercher.
C'est hyper bizarre, ça prouve le danger du truc. Il peut se passer n'importe quoi à tout moment, genre. Ça peut exploser comme, on sait pas en fait. Mais il y a une pression constante, genre, c'est trop bizarre.
Et cette vidéo continue de circuler. La direction du lycée a adressé un mail à tous les parents. Certains ont porté plainte. Le procureur a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit.
L'hommage à Samuel Paty d'un côté et la reconnaissance de la responsabilité de la République de l'autre, Laetitia.
Oui, quand deux actualités se chevauchent, Emmanuel Macron se rendra demain à Beson dans la banlieue ouest de Paris. Et là, c'est une autre cérémonie qui aura lieu. La question de la responsabilité de la police française dans la répression de la manifestation du 17 octobre 1961. Cette question est posée. L'opération avait été menée à l'époque par le préfet Papon. On a parlé alors de 3 morts, mais il y en aurait eu beaucoup plus, et notamment à Beson, Mathilde Dehimi.
Oui, en cette soirée du 17 octobre, des milliers de personnes se pressent à l'entrée de ce pont de Beson, incitées à sortir par le FLN pour protester notamment contre un couvre-feu qui ne concerne que les Français musulmans d'Algérie, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais comme sur d'autres ponts, la police les empêche d'avancer. Gilles Manceron est historien spécialiste de cette période.
Des gens ont été bloqués, ont été matraqués, obligés à rebrousser chemin. Il y a eu des personnes qui ont été balancées dans la Seine, soit après avoir été frappées, soit après avoir été l'objet de tirs. Ça a été un des lieux de massacre et d'un nombre de victimes important.
Une plaque y est apposée, tout comme sur le pont de Clichy où François Hollande se rend juste avant son élection. Une fois président, il reconnaîtra dans un communiqué la répression du 17 octobre. Mais il faut aller plus loin, dit Gilles Manceron, également responsable de la Ligue des droits de l'homme.
Une reconnaissance qu'un crime d'État a été commis, qu'il a été couvert par des mensonges qui ont été répétés pendant des décennies par les autorités publiques de ce pays. Il a fallu rompre ce déni, le contredire par des recherches. Et donc, dans ces conditions-là, il faudrait reconnaître les faits tels qu'ils se sont déroulés véritablement.
Officiellement, il y a donc 3 morts. Les historiens parlent de dizaines, voire 200, 300 morts. Pour avancer dans cette histoire de France, ils demandent l'accès à toutes les archives, sans bâton dans les roues. Certains dossiers ont d'ailleurs opportunément disparu au lendemain de ce 17 octobre 61.
Merci Mathilde Dehimi. On attend désormais le go d'Emmanuel Macron. Benoît Payan, le maire de Marseille, attend de pied ferme le chef de l'État. Il doit annoncer en fin d'après-midi le montant de l'aide dans le cadre du plan Marseille en grand. La participation de l'État n'a pas encore été établie formellement, mais elle devrait être autour d'1,5 milliard d'euros hors rénovation des écoles. Emmanuel Macron donc à Marseille. Emmanuel Macron et la piste du chèque carburant. Autre front que le gouvernement scrute au jour le jour, puisque l'INSEE a encore relevé que les prix à la consommation ont continué d'augmenter en septembre, plus 2,2%, et que ces prix sont tirés par ceux de l'énergie, entre autres. Et c'est là justement le problème. Comment aider les ménages ménages les plus modestes qui ne peuvent faire sans leur voiture. Comment éviter une nouvelle crise, par exemple des gilets jaunes? Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Le gouvernement planche donc un chèque carburant sur le même modèle que le chèque énergie. Et c'est dans les tuyaux, mais ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué puisque personne n'a d'abonnement à une station essence, par exemple.
Bah oui, et Bercy surtout ne veut pas de saupoudrage ou d'effet d'aubaine qui coûterait des fortunes aux caisses de l'État. Première question, qui pourra toucher ce chèque carburant, selon quels critères et dans quelle situation géographique? Premier casse-tête pour le gouvernement, si faire un chèque en zone rurale sans transport en commun est plutôt simple à délimiter, faire un chèque carburant au niveau national implique en revanche de dissocier les usages contraints de ceux qui pourraient utiliser les transports en commun. Le gouvernement ne veut pas non plus conditionner ce chèque au seul déplacement professionnel, comme le fait dans les Hauts-de-France Xavier Bertrand, pour ne pas oublier les retraités ou les mères de famille qui accompagnent les enfants. Deuxième casse-tête pour le gouvernement, comment justifier de ces déplacements? Bercy ne veut pas de guichet à ciel ouvert. La demande, faire une demande de ce chèque implique aussi une plateforme qui demandera un peu de temps à mettre en place, là où le gouvernement veut agir vite. Pour marquer les esprits, une mesure sur les petits revenus en dessous d'un SMIC et demi, justifiant de déplacements en voiture, tient la corde. Mais attention, il n'y a pas non plus de cagnotte fiscale sur le carburant, rappelle Bercy. Le budget de ce chèque carburant sera donc limité.
De la voiture au train, tenez-le vous pour dit, la SNCF se veut plus verte.
Elle annonce la fin des bouteilles plastiques dans ses TGV et intercités au profit, je cite, d'emballages recyclables. On va passer de 2 millions de bouteilles plastiques vendues chaque année dans les wagons-bars des trains à des emballages carton pour l'eau ou en canettes aluminium. Alain Krakowicz, le directeur de Voyage SNCF, joint par Claire Chaudière.
Vous savez, le plastique est une vraie catastrophe, tout le monde le sait maintenant, pour la faune, pour les océans et même pour les êtres humains. Et quand on sait que, par ailleurs, on dépense des dizaines de millions d'euros pour rendre nos TGV du futur recyclables à 97%, c'est quand même un tout petit peu bizarre, voire même presque scandaleux, d'imaginer qu'on aurait des bouteilles en plastique dans des TGV qui sont totalement recyclables. Donc on a cherché à supprimer totalement le plastique dans les bars TGV et on y est donc parvenu. Depuis hier, c'est dans un contenant qui est assez original. À la radio, c'est plus compliqué de présenter, mais qui est totalement recyclable. Et puis même le reste de ce qu'on propose au bar, par exemple les couverts, sont en bambou. Donc voilà, c'était un sujet qu'on avait depuis longtemps sur les bras et je suis très content qu'on ait cette solution.
Et elle n'aime pas, ou plutôt elle n'est pas contente, la reine d'Angleterre. Elisabeth II apprécie moyennement que les dirigeants mondiaux parlent de changement climatique, mais n'agissent pas en conséquence. Elle l'a dit dans une conversation privée hier, c'était en marge d'un discours au Parlement gallois. Et voilà qui ne devrait pas du tout plaire à la reine, puisqu'à 15 jours de la COP26 à Glasgow, certains dirigeants mondiaux ne seront pas là. Ainsi, Xi Jinping, le président chinois. À Pékin, Stéphane Pambrin.
Cela fait plus de 600 jours que Xi Jinping n'a pas quitté la Chine. Enfermé à Zhongnanrai, la résidence des présidents chinois, il ne sort que rarement pour des visites en province. Et de tous les chefs d'État et de gouvernement du G20, il est le plus casanier. Officiellement, bien sûr, c'est l'épidémie de Covid-19 qui explique son absence de la scène internationale. Mais cette décision peut aussi peser sur les positions chinoises, sur les grands dossiers, à commencer par le climat. Quelle position tiendra la Chine lors de cette COP26? La question n'est pas encore tranchée ici à Pékin. Pour certains, le refus du président Xi de participer à cette conférence pourrait constituer le prélude à une opposition de Pékin à la fixation de nouveaux objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans un contexte de flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement chinois, confronté à une pénurie d'électricité, a dû se résoudre cette semaine à relancer la production de charbon, tout en martelant ses ambitions d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Des objectifs ambitieux, mais pour lesquels la Chine n'accepte aucune résolution internationale contraignante. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
L'auteur de l'attaque à l'arc en Norvège a été placé en détention provisoire pour 4 semaines. Décision du tribunal aujourd'hui. La détention se fera toutefois en milieu médicalisé. La question de son état mental est posée. Les violences qui ont eu lieu hier au cœur de Beyrouth, au Liban, ont un arrière-goût aujourd'hui de guerre civile. C'est l'enquête sur l'explosion dans le port de la capitale libanaise en août 2020 qui a mis le feu aux poudres et surtout le juge qui a été autorisé à reprendre ses investigations. Le Liban s'apprête aujourd'hui à inhumer les victimes. 7 personnes ont été tuées dans des échanges de tirs lors de la manifestation qui était organisée par les chiites du Hezbollah et d'Amal. À Beyrouth, les précisions d'Aurélien Colli.
Beyrouth groggy ce matin avec nombre de magasins et d'écoles fermées et des Libanais qui préfèrent rester chez eux. Journée de deuil national certes, mais inquiétude surtout sur la suite des événements avec les funérailles des militants des deux grands partis chiites, Amal et Hezbollah, prévues cet après-midi. Deux formations qui accusent sans détour l'ancienne milice chrétienne des forces libanaises d'avoir tiré hier sur leurs manifestants. Leur chef, Samir Jaja, est en une d'un quotidien proche d'eux, en uniforme nazi, avec une moustache d'Hitler et en manchette, pas de doute. Hier, les forces libanaises ont démenti leur implication en accusant toutefois les manifestants d'avoir pénétré armés dans un quartier chrétien, une ligne rouge à ne pas franchir et un message adressé à ces deux partis chiites habitués au coup de force, estiment plusieurs analystes. Dans un éditorial titré « Leçon d'un jeudi rouge sang », un journal chrétien tire plusieurs enseignements de la journée d'hier. Le retour d'abord de l'ordre milicien plus de 30 ans après la guerre civile, l'entrée ensuite dans la campagne des législatives de 2022 avec des partis milices qui ont besoin de ressouder leur base, érodée par la crise économique et la faillite de l'État dont ils sont tous responsables, l'enquête sur l'explosion du port enfin, avec un juge qui a résisté aux pressions et mis la classe politique face à ses responsabilités au nom du droit des Libanais à connaître la vérité. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
En Italie, le pass sanitaire obligatoire pour tous les travailleurs. Il entre en vigueur aujourd'hui. Jusqu'à 3 millions de personnes risquent de se voir refuser l'accès à leur lieu de travail, puisque non vaccinés. Des manifestations et des blocages étaient annoncés par les Antivax dans la journée en Italie. En France, ce sont les tests gratuits qui sont terminés. Aujourd'hui, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, l'assurance maladie n'est pas là pour financer les tests pour aller au restaurant ou à un concert. C'est ce qu'a dit le patron de la Sécurité sociale, Thomas Fatome. Aujourd'hui. Il s'y résout, Xavier Bertrand va reprendre sa carte chez les Républicains. Il les avait quittés en 2017. En réadhérant à LR, il pourra de fait voter au congrès du parti qui désignera le candidat à la présidentielle et qui aura lieu début décembre. Les arrêtés sont parus au journal officiel ce matin. Certaines chasses traditionnelles d'oiseaux sont à nouveau autorisées dans plusieurs départements. Des chasses en fait à l'aide de filets grillagés ou de cages. Ces pratiques avaient été jugées illégales le 6 août dernier par le Conseil d'État. Le gouvernement a répondu en septembre. Ces chasses respectent bien le droit européen. Ces techniques en fait permettent de capturer les oiseaux vivants sans leur causer de dommages corporels. C'est un mode de chasse plus respectueux de l'environnement, c'est ce que dit le gouvernement. La Ligue de protection des oiseaux, elle, n'apprécie pas vraiment. Elle va saisir le Conseil d'État. Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO.
Il y a un décalage total entre les propos du président Macron à Marseille au congrès de l'Union internationale de conservation de la nature où il affiche que la France doit être exemplaire et ouvre la voie du respect de la biodiversité et puis cette réalité que nous vivons où on s'acharne à tordre le droit pour tuer davantage. Parce que je rappelle quand même qu'il ne s'agit pas de limiter des populations en surnombre comme les sangliers. Non, c'est un loisir. Il faut arrêter de nous faire sourire avec les traditions. Quand elles sont mauvaises, quand elles sont meurtrières, il faut les cesser. On est au 21e siècle et ça n'est pas acceptable, c'est tout. Et du reste, l'Europe ne l'accepte pas. On est le dernier pays d'Europe. Il y avait Malte, il y avait l'Espagne, il y avait l'Italie. C'est fini. Tout le monde a tourné la page. Alors maintenant, on arrête de se comporter de façon inacceptable à l'égard de la faune sauvage.
À Régie Audience, chaque vendredi, nous vous racontons les moments forts et les coulisses du procès des attentats du 13 novembre.
Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous êtes en direct, Charlotte Piret, du Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris. Les témoins du Bataclan se succèdent à la barre pour raconter leur soirée. Plus d'une centaine de personnes ont déjà témoigné, Charlotte. Alors on pourrait dire que les témoignages se ressemblent, mais après deux semaines d'audition de partie civile, vous nous dites qu'on apprend encore des choses.
Oui, on a notamment appris des choses avec Guillaume. Guillaume, il était étudiant de 21 ans le 13 novembre et il nous a raconté cette scène complètement incroyable et surréaliste où il s'est retrouvé sur la scène face à l'un des terroristes, Sami Amimour, qui le mettait en joue directement avec sa Kalachnikov. Il a raconté cet échange de regards. Il a même dit « Moi, j'ai compris dans ce regard qu'il n'allait pas me tuer ». Il a raconté comment ils avaient échangé quelques mots, etc. Et puis, en fait, Guillaume a été sauvé de manière totalement miraculeuse et in extremis par le commissaire de la BAC Nuit et son collègue qui sont intervenus les tout premiers dans le Bataclan, qui ont tiré sur Sami Amimour et Guillaume saute là aussi in extremis de la scène au moment où Sami Amimour va déclencher sa ceinture explosive et donc cette explosion va provoquer un énorme blast auquel il a réchappé miraculeusement, on peut le dire.
Et Charlotte, ce que l'on retient aussi de ces audiences, c'est que c'est la vie totalement balayée, fracassée post-attentat pour ces jeunes gens.
Oui, et parfois des très jeunes gens. Moi, j'ai été marquée par le témoignage de Tom, par exemple. Il avait 23 ans au moment des faits. Tom, il a aidé et il a sauvé beaucoup de gens ce soir-là. Mais malgré tout, il y a une personne qu'il n'a pas pu ou pas réussi à sauver. Et cette personne le hante encore aujourd'hui. Tom, il a raconté à quel point il avait sombré après le 13 novembre dans l'alcool, les médicaments, la drogue. Et effectivement, on voit encore son mal-être véritablement criant aujourd'hui encore. Il y a eu également Shaili. Elle venait tout juste de passer son bac. Elle venait d'avoir obtenir ce bac avec mention. Et la suite, ça a été une lente et lente dégringolade. Elle a fini par boire jusqu'à une à deux bouteilles d'alcool par jour, nous racontait-elle, cachée sous sa couette en dévorant tout le catalogue de Netflix. On a aussi vu hier encore Marius et Nino. Eux, ils ont perdu leur papa, âgé de 43 ans au Bataclan, Nicolas Classo, leur papa. Marius et Nino, ils en avaient 11 et 15. Ils sont venus à la barre s'exprimer. Et ils ont raconté pour l'un comment il avait dû être hospitalisé pendant 2 mois en psychiatrie, pour l'autre comment en janvier dernier, alors qu'il a tenu pendant 5 ans, nous a-t-il dit, il a fini par tout lâcher, y compris ses études.
Et il y a aussi, on peut le dire aussi, ceux qui surprennent quand ils viennent à la barre avec ce qu'ils amènent en fait avec eux, Charlotte.
Oui, je ne sais pas si ce sont des talismans ou porte-bonheur, j'oserais peut-être pas le dire, mais en tout cas des objets qu'ils gardent de ce 13 novembre. Il y a François Dominique, par exemple, il est venu à la barre et il nous a montré un billet de 5 euros déchiré. Il a été expliqué que ce billet, en fait, il l'a déchiré en voulant payer son taxi pour rentrer chez lui après s'être enfui du Bataclan, et que tellement nerveux et plein d'émotions, il l'a déchiré. Et il nous explique qu'il l'a ressorti pour la première fois là à l'audience depuis 6 ans, donc, et qu'il a découvert qu'il y avait une tache de sang sur ce billet de 5 euros. Il y a aussi Sandrine qui, elle, est venue témoigner dans la même tenue intégralement, y compris jusqu'à ses bottes qui ont été traversées par une balle, la même tenue que celle qu'elle portait ce 13 novembre 2015. Et on avait déjà vu un peu plus tôt une femme qui était venue avec un petit bocal et à l'intérieur un écrou. C'était un écrou qu'elle a reçu dans la joue, qui l'a grièvement blessée, qu'elle garde donc toujours aujourd'hui.
Et Charlotte, l'audience a commencé là ou pas encore ?
Oui, l'audience a démarré. On entend en ce moment la nièce et la sœur de Frédéric Hénineau qui est décédé au Bataclan et qui témoigne à la barre. Et puis un peu plus tard, on va avoir aujourd'hui un groupe d'Anglais et d'Irlandais qui ont fait le déplacement pour venir témoigner. Ils sont une petite dizaine installés dans la salle d'audience.
Merci Charlotte Piret avec Geoffrey Marianne pour les moyens techniques. Vous étiez au Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris. Merci à tous les deux et je rappelle que vous pouvez suivre aussi le procès sur franceinter.fr avec Charlotte Piret et Sophie Parmentier. On passe à un rapport qui veut renforcer la présomption d'innocence et pour mieux éduquer aussi le fonctionnement, sur le fonctionnement de la justice, pour mieux réguler aussi les réseaux sociaux. Voilà ce rapport. C'est l'ancienne garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, qui l'a rendu hier à son lointain successeur, Éric Dupond-Moretti. Plus de 80 personnes ont été auditionnées pendant 4 mois. Et pour parler justement de ce rapport, l'auteur est avec nous. Bonjour Elisabeth Guigou.
Bonjour.
Alors, pour bien comprendre la teneur de ce rapport, quel a été le constat de départ? Les temps ont changé et avec l'arrivée des réseaux sociaux, la présomption d'innocence a été plus attaquée?
Oui, incontestablement. Le gros problème aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, au fond, les régulations de la presse traditionnelle se sont mises en place. Vous avez à France Inter une charte de déontologie, toute votre rédaction est attentive au fait qu'on n'utilise pas, par exemple, des mots comme violeur présumé, auteur présumé, mais plutôt comme suspect ou mise en cause. Bon. Donc, il y a eu des progrès sur la presse classique. Pour faire respecter ce principe, dont je rappelle que depuis la Déclaration des droits de l'homme, c'est tout homme est réputé innocent, présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable par un tribunal. Donc maintenant, nous avons, depuis une dizaine d'années, une évolution avec les réseaux sociaux qui vraiment, je trouve, extrêmement dangereuse parce qu'elle ébranle les fondements, si vous voulez, de notre état de droit à travers ce principe.
Mais comment, Elisabeth Guigou, on sanctionne ça? Parce que c'est pas simple.
Non, c'est pas simple parce que ce grand principe doit être concilié avec d'autres principes d'égale valeur. La liberté d'expression, les droits des victimes, on vient d'entendre ce témoignage évidemment bouleversant des victimes d'attentats, les droits de la défense. Et donc, tout le problème des juges, c'est d'équilibrer. C'est un problème d'équilibre. Or, vous voyez bien que dans notre société, telle qu'elle évolue, notamment sous la pression des réseaux sociaux, de l'immédiateté, du péremptoire, de l'absence de nuances, de cette lame de fond hein, qui empêche tout recul, toute réflexion, au fond, nous avons ce problème d'équilibre dans la société. Parce que non seulement...
Et comment on fait ?
Alors, comment on fait ? Ben, d'abord,
dans vos propositions.
D'abord, faire en sorte que ce principe soit mieux connu, parce que tout se passe comme si c'était acquis pour toujours, parce que c'est là depuis plus de 200 ans. Bon, non. Il faut l'enseigner. Hein. Alors, on fait beaucoup de progrès dans les écoles pour enseigner le droit, mais pas en tant que tel. L'enseigner, mieux former les acteurs, les magistrats, les forces de sécurité, les journalistes aussi, qui sont des haut-parleurs hein, de ce qui se passe. Et puis faire en sorte de responsabiliser, parce que tout un chacun, tous les acteurs de la société sont responsables des atteintes.
Et est-ce que c'est suffisant ? Parce que faire, par exemple, une journée du droit, comme vous le proposez dans votre rapport, est-ce que l'enseigner, est-ce que c'est suffisant quand on voit la puissance d'un message, et on l'a vu encore avec Nantes, sur les réseaux sociaux, est-ce que ça implique derrière ?
Non, bien sûr que non. Il faut bien sûr que la justice aussi explique mieux. Mais sur les réseaux sociaux, nous avons 6 propositions qui consistent dans la suite de ce que fait maintenant de plus en plus l'Union européenne et les lois qui ont été votées depuis 2004 en France, mais encore avec la loi Avia récemment, qui consiste à rechercher des responsabilités sur les réseaux sociaux qui sont protégés par l'anonymat. Donc, par exemple, de retrouver, de demander aux hébergeurs les adresses IP hein, lorsqu'il s'agit de contenu illicite. Alors, ça se fait pour la pédopornographie, pour la haine en ligne, pour ce genre de choses, l'apologie de la violence, mais pas encore pour la présomption d'innocence. Et ce qui se fait maintenant de plus en plus au niveau national, vous voyez bien que quand les hébergeurs sont aux États-Unis, pour l'essentiel, ils se réfugient derrière le premier amendement. Donc il faut que l'Union européenne hein, prenne en charge la régulation des contenus. Il y a 2 règlements qui doivent être adoptés sous présidence française, notamment le Digital Service Act, et nous comptons là-dessus et nous analysons comment et pour protéger y compris la présomption d'innocence.
Et j'imagine qu'il faut aller très vite.
Conclure, voilà.
Merci beaucoup Elisabeth Guigou, ancienne ministre de la Justice et auteur donc du rapport pour renforcer la présomption d'innocence. On passe à un tout autre sujet. Ils étaient eux à bout de souffle entre dépression, perte de voix, burn-out. La chanteuse Adèle et le chanteur Stromae s'apprêtent à sortir chacun un album. Et rien que de l'annoncer, figurez-vous, ça s'affole sur les plateformes. Un nouveau single d'Adèle et de Stromae a été dévoilé aujourd'hui, un chacun. Corinne Pellissier, le match a commencé car les fans... ils sont nombreux.
20 millions de vues sur YouTube en quelques heures, 10 millions sur Instagram. Avec son nouveau titre, Easy On Me, la chanteuse Adèle réaffirme son statut d'icône de la pop britannique dans un très beau clip du réalisateur Xavier Dolan qui en dit beaucoup sur la nouvelle vie de la chanteuse, désormais exilée à Los Angeles après 5 années tourmentées, une dépression et un divorce. Morceau cathartique en préambule d'un album annoncé comme celui de la rédemption. Pour la chanteuse, aux 15 Grammy Awards qui s'est longuement confiée dans le dernier numéro de Vogue et sur la BBC. Stratégie de retour ultra médiatisée pour Adèle et sur un mode beaucoup plus discret avec Stromae. Lui aussi a fait son grand retour cette nuit sur les plateformes avec un nouveau titre, Santé, dont on va découvrir la vidéo seulement ce soir. Des paroles sérieuses, une musique dance aux accents de cumbia pour un morceau dédié aux petites mains et aux travailleurs du quotidien.
Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres.
Un premier single depuis 2015 et cette tournée qui l'avait conduit exténué à se retirer du circuit de la musique. On ne connaît pas encore la date de sortie de son nouvel album, mais le chanteur est déjà l'un des artistes les plus convoités des prochains festivals d'été, pour l'instant confirmé à l'affiche de Rock en Seine le 28 août 2022.
Corinne Pellissier, merci. Je me posais la question, Frédéric. Vous êtes team Stromae ou Adèle ?
Les deux à la fois. Très difficile.
Ça va être compliqué.
De choisir, là.
Bon courage.
Merci Laetitia Gaillé. La météo dans un instant.
Il y a très longtemps que je voulais écrire sur la montagne.
Jean-Christophe Ruffin.
Rémy, c'est un guide, une sorte de guide mondain, de jolie cliente, riche de préférences. Laure est très séduisante, elle travaille dans la finance, c'est une warrior. Il y aura un chemin l'un vers l'autre, mais qui se fera d'abord vers la montagne. La montagne, ça peut être extrêmement sensuel quand il fait beau, quand on est bronzé. La montagne, c'est aussi la tragédie et c'est un peu comme l'amour finalement. On passe ou on passe pas et on ne le sait pas avant.
Les Flammes de Pierre, le nouveau roman de Jean-Christophe Ruffin, chez Gallimard.
Avec le Secours Populaire, ils ont choisi de transmettre leur bonheur.
Bonjour, je m'appelle Françoise, j'ai 70 ans. Soucieuse de l'avenir des futures générations, j'ai décidé de faire un legs au Secours Populaire. Il me tient à cœur que mon patrimoine soit utile à ceux qui en ont le plus besoin, en France et dans le monde.
Legs Donation Assurance Vie, demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
La météo.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore agréable mais un peu nuageux aujourd'hui encore, hein ?
Oui, sur la plupart des régions, on a du soleil, tamisé par des nuages élevés aujourd'hui. Alors, ils sont discrets du sud de la Bretagne vers le sud-ouest, mais souvent denses du centre-Val de Loire vers le Jura et l'Alsace. Sur la Provence, la Côte d'Azur et le sud des Alpes, on va trouver quelques nuages cet après-midi. C'est du soleil sur la Corse, avec un vent jusqu'à 60 km à l'heure. Et puis, on a une perturbation qui circule des côtes de la Manche vers les frontières du Nord, en passant par la région parisienne cet après-midi. Elle apporte essentiellement des nuages plus épais au nord de la Seine, avec quelques pluies possibles. Les températures, elles sont proches des moyennes de saison, 15 degrés attendus à Lille et Dijon, 17 à Lyon, 18 degrés à Paris, Caen, Angers, 20 degrés pour Bordeaux et Marseille et 22 à Toulouse ou à Bastia. Et demain, on va retrouver la trace de notre perturbation sur les régions au nord de la Loire, mais ça s'éclaircira bien l'après-midi. Et puis ailleurs, le soleil s'imposera après la grisaille du matin.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter, le 13-14, Frédéric Barrère.
Il est 13h30 sur France Inter. Un vide, un trou, une charge mentale, une aliénation, un calvaire, un écartèlement, un chemin de croix, ce sont des mots très forts qui s'appliquent tous à une situation pourtant fréquente, naturelle, en apparence, empreinte dans l'imagerie d'Épinal de douceur, d'amour, d'harmonie, la maternité.
Quand on s'est connus, on a vite parlé d'enfants et pour moi c'était, ben oui, j'en veux des enfants, enfin, c'était clair dans ma tête. Mais c'était pas réfléchi. Je m'étais pas posé la question. Je ne me rendais pas compte de, j'ai le mot sacrifice qui vient en tête, du sacrifice que ça allait demander, en fait.
Alors, on vient d'entendre une jeune maman, Ambre, extrait de l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Peut-on regretter d'être mère? C'est un tabou, un sentiment inavouable que pourtant 10 femmes ont accepté de confier à Stéphanie Thomas, productrice et réalisatrice à France Culture, auteur de Mal en mer chez Lattès.
Mal de mer chez Lattès.
Bonjour Stéphanie Mora. Bonjour. Pour éclairer ce sentiment de regret maternel, nous avions essayé de comprendre et aussi d'apporter une réponse avec vous, Monique Bidovski, psychiatre, psychanalyste et auteur de Devenir mère chez Odile Jacob. Bonjour madame. Vos questions et témoignages, chers auditeurs et auditrices, au 01 45 24 7000. N'hésitez pas à nous appeler et sur l'appli France Inter, cela fonctionne aussi. Stéphanie Thomas, quelle souffrance dans le témoignage qu'on vient d'entendre d'Ambre. Le regret maternel, c'est un tabou et ces personnes montrent, expriment une souffrance terrible, j'ai l'impression.
Oui, c'est en fait il y a une forme de double injonction, c'est-à-dire que si tu d'abord tu seras mère, une femme doit être mère, c'est ce qu'on attend d'elle a priori, mais si jamais elle regrette, elle a une obligation à se taire à tout jamais.
Parce que Stéphanie Thomas, dans le témoignage d'Ambre que vous avez recueilli, hein, qui a été diffusé sur Le Pied sur Terre, mais qui est dans votre livre Mal de mère, Ambre dit également, on l'a pas entendu, Ambre dit également, si j'ai un deuxième enfant,
je me fous en l'air,
je me suicide.
Et elle préfère finalement suivre une psychanalyse et avoir seulement un enfant que de commettre l'irréparable.
Sur un sujet pareil, Stéphanie Thomas, comment avez-vous réussi à convaincre ces femmes à se livrer ?
Eh bien, ça n'a pas été si difficile que ça en réalité. C'est comme si elles attendaient que quelqu'un les écoute et puisse leur tendre le micro, en tout cas, sans jugement. Ouais. Parce qu'elles ont très peur du jugement, parce que c'est indicible. Enfin, c'est des choses qu'on, c'est très difficile aussi à entendre. Quand j'ai commencé à écrire le livre et que j'en ai parlé autour de moi, la première chose qu'on me disait, c'était « Oh mon Dieu, les pauvres gosses ».
Ouais.
Et en fait, je pense que ça fait surtout référence à chacun d'entre nous. On a tous peur d'être cet enfant regretté. Enfin, peut-être pas tous, mais c'est pour ça que les réactions sont aussi vives. Et les femmes que j'ai donc rencontrées, interrogées, étaient plutôt rassurées, contentes. On a parlé des heures et des heures et des heures. C'est des femmes très bien articulées, très bien droites dans leurs bottes, qui ont pris le temps d'analyser leurs regrets de maternité parce qu'elles avaient le sentiment, enfin, elles comprenaient pas ce qui leur arrivait depuis la naissance de l'enfant. Donc elles ont dû un peu creuser, travailler sur elles-mêmes pour pouvoir comprendre.
Regretter encore une chose, Stéphanie Thomas, regretter d'être mère, ça ne veut pas dire être mauvaise maman, ne pas aimer son enfant.
Ça n'a rien à voir. Et non, il faut vraiment dissocier le fait d'être mère, qui a un rôle, une tâche, enfin une voilà, elle, pour elle, c'est un rôle, quelque chose qui leur va pas, c'est comme un costume mal ajusté, ça leur plaît pas du tout d'être mère. En revanche, elles aiment leurs enfants, sans l'ombre d'un doute.
Alors Monique Bidlowski, c'est quelque chose de fréquent selon vous, ce regret maternel, ça dépend des sociétés, c'est... On parle du baby blues ou de la dépression post-partum, ça n'a rien à voir.
C'est un vaste sujet. Je voudrais quand même tout de suite dire que on a changé d'époque depuis les années 70-80, que les femmes maintenant sont libres d'avoir ou ne pas avoir un enfant, et que j'ai remarqué dans le livre de notre collègue que la plupart des femmes dont il était question étaient des femmes qui avaient eu des enfants sous l'effet de la pression familiale ou sociale. Or, cette pression familiale et sociale, elle est quand même, de mon expérience, en train de décroître. Et les femmes sont maintenant de plus en plus libres d'avoir un enfant, ou même de refuser d'en avoir, à condition, bien entendu, d'avoir une activité de type créatrice dans leur activité professionnelle ou sociale, politique ou autre. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne faisaient pas d'enfants, mais qui s'investissaient dans des activités tournées vers les autres et qui remplaçaient pour elles assez heureusement la maternité. Après, il y a quelque chose qui ressort aussi de cet ouvrage et que je voudrais dire, c'est que ces femmes, on a l'impression qu'elles n'ont pas du tout été prévenues de ce qui les attendait en matière de maternité. Et elles sont un peu... Alors ça, c'est l'effet pervers, je dirais, de la contraception. Maintenant que les enfants sont facilement... qu'on peut facilement refuser la maternité, eh bien, si on l'accepte, il faut que tout le monde soit content. Or, il n'y a aucune raison que ça se passe de cette façon-là. Et au contraire... beaucoup de femmes s'imaginent, peut-être à la lecture de Gazette ou autre, que ça va être facile et rose. Et je crois qu'il y a un travail peut-être médiatique à faire pour prévenir, pour expliquer aux femmes que c'est une épreuve difficile, la maternité, difficile parce que ça vient provoquer une sorte de séisme dans la vie quotidienne, surtout le premier enfant, dans la vie quotidienne d'un couple. L'enfant, il va, pour que ça se passe bien, ça suppose la part de la mère, pour que la mère... Moi, je parle pas de mauvaise ou bonne mère. Je pense que c'est des jugements de valeur qui n'ont pas leur place dans un sujet comme celui-là. Je pense qu'il y a des mères qui s'ajustent à leur enfant et d'autres qui ne s'ajustent pas. Et que s'ajuster, c'est pas donner. L'instinct maternel, ça n'existe pas. Et je voudrais insister là-dessus. Ça n'existe pas. Ça existe chez les animaux et c'est quelque chose qui disparaît avec l'évolution darwinienne. Hein. Chez les animaux, à partir des grands singes, sont doués d'un très grand instinct maternel. Chez les sujets pensants, doués d'un inconscient, l'instinct maternel n'existe plus, il est remplacé en quelque sorte par toute la richesse de l'inconscient et des souvenirs qui va modeler la façon dont la femme va pouvoir se débrouiller avec l'enfant qui lui arrive.
Oui, et Stéphanie Thomas décrit dans son livre ce modèle allemand de la femme vraiment oui, à la maison, qui donne pas forcément les mêmes résultats que le modèle français, où il est plus habituel de faire garder son enfant.
Alors ça, c'est un autre sujet. La France, jusqu'il n'y a pas très longtemps, il y avait eu un colloque, bon, mais ça remonte à quelques années, là-dessus, sur lequel on avait pas mal travaillé. La France a été longtemps la championne des investissements dans les dépenses publiques pour la garde des enfants, effectivement, les subventions aux crèches, les subventions aux aides maternelles, le congé de maternité, qui n'existe pas dans... Il y a beaucoup de pays où il n'existe pas. Hein. Mmh. Et le modèle allemand, je ne sais pas, mais je connais assez bien l'Italie. Et l'Italie, c'est les grands-mères qui sont au travail. Hein. Il y a pas de... Il y a peu de... Donc, je crois quand même qu'en France, les femmes sont encore... plus aidés qu'ailleurs. Bon, mais ça ne résout pas tout, hein, parce que les aides après la naissance, elles interviennent à la fin du congé de maternité, qui est beaucoup trop court. Hein. Dans un monde idéal, à mon avis, les femmes devraient pouvoir s'arrêter pendant un an, s'occuper de leur enfant, sans perdre rien de leur carrière professionnelle, bien entendu. Alors, je dis bien que c'est un monde idéal.
Alors justement, Stéphanie Thomas, le congé paternité, il y a aussi le rôle du père, bien évidemment. Il a été allongé cet été. On est passé à 25 jours obligatoire.
C'est pas foufou, hein.
C'est pas foufou, c'est pas foufou. Mais c'est une aide, j'imagine, pour la charge mentale, pour le partage des tâches. C'est une aide qui est considérable.
Oui. Bah c'est toujours mieux que rien.
Ouais, pas non, plus. Oui, Monique.
C'est plus que ça, parce que je pense que le père a un rôle très important, non pas de câliner l'enfant et de lui donner le biberon, mais de soutenir sa femme. Et que les femmes seules qui n'ont pas un père à leur côté pour les aider à tenir le coup, elles sont bien plus mal parties que les autres. Le rôle du père est essentiel comme étayage de la mère dans ces moments-là.
Et là, parmi les femmes que j'ai rencontrées, la moitié dans ces familles, les hommes sont soit partis, soit absents, soit il y a eu des séparations, soit ça se passe très mal avec les mères. Enfin, alors évidemment, il y en a deux ou trois dans les qui tiennent la route, mais a priori, c'est souvent les mères qui s'occupent énormément de leurs enfants. Et là, du coup, tout le regret peut se manifester et se développer.
Et elles font des enfants à cause de cette pression sociale, vous avez remarqué, c'est l'élément numéro un, le modèle qui est rabâché.
C'est souvent ça, elles ont le sentiment d'avoir été un peu piégées. Mais parmi les femmes, il y a une femme qui s'appelle Luna, qui désirait ardemment avoir des enfants, qui a complètement idéalisé la venue de cet enfant. Elle voulait à tout prix s'en occuper, mais c'était une façon pour elle de régler ses comptes avec le passé. Et en réalité, elle aurait mieux fait de travailler sur elle, entre guillemets, hein, si je puis me permettre, avant d'avoir un enfant, que de penser que l'enfant allait réparer ses blessures.
Alors Monique Bilowski, vous disiez à l'instant qu'en fait les femmes, c'est une découverte pour aller vite. La maternité, on ne les aide pas, on ne leur apprend pas le séisme que cela peut provoquer.
On idéalise la maternité.
Ouais.
On les prévient pas, je dirais. Il ne s'agit pas de les éduquer, parce que c'est...
De les préparer.
Il n'y a pas d'éducation à la maternité. Quand ça arrive, il faut faire face à cette petite chose qui vient de naître et qui vous demande des choses qui vous demande des attitudes qui sont quelquefois incompréhensibles. Donc, il faut s'ajuster.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les enfants? J'imagine qu'un enfant dont la mère regrette la maternité, pas d'avoir eu l'enfant, pas d'avoir eu ce petit bonhomme, cette petite fille, mais qui regrette une maternité. Ils en parlent, la mère se confie. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur la réaction des enfants à l'âge adulte ou à l'adolescence?
Même tout petit.
Ouais, même tout petit.
L'enfant qui est accueilli par une mère qui ne s'ajuste pas est un enfant qui est à risque de troubles du développement, mineurs peut-être, mais de petits troubles, de troubles infectieux plus fréquents. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand la maman ne va pas bien, le bébé l'emmène chez le pédiatre. Et le pédiatre est celui qui recueille, en effet, toutes les petites pathologies de l'enfant qui résultent du mauvais ajustement avec sa mère. Mmh. Donc l'enfant, il est très très réactif. Et plus il est petit, plus il est sensible. Ouais. Parce que plus tard, il a d'autres repères dans la vie qui lui permettent de s'étayer lui-même.
Alors, on a une question au standard. On a Jessica qui est en ligne. Bonjour Jessica.
Oui, allô, bonjour, merci de prendre ma question.
Je vous en prie, allez-y.
Oui, alors en fait, moi je m'interrogeais là par rapport à ce que j'écoute là, hein, par rapport à votre émission, par rapport aux observations que moi j'ai pu faire. Hein. Donc, je suis maman d'une adulte hein, aujourd'hui, je suis en relation avec des jeunes dans mon travail et dans ma vie personnelle, et j'entends, je trouve beaucoup d'idéalisation, énormément, sur tout, sur l'amour, les relations parents-enfants, sur la maternité, la parentalité de façon plus large, mais je m'interrogeais sur les messages qu'on peut faire passer aussi pour essayer d'aider à déconstruire cette idéalisation qui forcément ne correspond pas à la réalité. et du coup peut-être peut amener après à des chutes vertigineuses sur le vécu. Hein, des mamans, des papas. Et je me demandais quel travail on pouvait faire auprès des jeunes par rapport à ça.
Merci Jessica. Alors on va vous répondre, Monique Bilowski.
Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour maternel, comme tout amour d'ailleurs, est sujet à l'ambivalence. L'ambivalence est un mot très très important. L'ambivalence, elle existe dans tout amour, y compris avec l'autre, le conjoint. Certains jours on l'aime, d'autres on a envie de le mettre à la porte. Et ben avec les enfants c'est pareil. Et c'est un mot, l'ambivalence est un mot très important et il est beaucoup plus tabou que quoi que ce soit d'ailleurs.
Merci beaucoup. On s'arrête là, on n'a plus de temps. Merci à vous Stéphanie Thomas, auteure de Mal de mère chez Jean-Claude Lattès. Merci Monique Bilowski qui a publié Devenir mère chez Odile Jacob. Merci à vous également et à toutes les deux d'être venues un peu battre en brèche ce tabou sur France Inter. Merci, merci à vous.
France Inter, le 13-14.
13h44 sur France Inter. À suivre votre feuilleton, une semaine dans la vie de la militante et entrepreneur sociale. Alice Barbe, aujourd'hui, comment peser sur la politique de demain? Le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour.
Aujourd'hui, l'hommage à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération.
C'est à cet instant précis aux Invalides et je parlerai de la jeunesse des compagnons.
Rendez-vous juste avant 14h. Jean, et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Frédéric.
À votre micro aujourd'hui, le rappeur Guillaume Tranchant, plus connu sous le nom de Gringe. Il est également comédien et l'auteur du livre Ensemble, on aboie en silence, qui vient de paraître en poche chez HarperCollins.
Un récit poétique et rudement bien écrit, dans lequel il raconte la maladie de son petit frère, diagnostiqué schizophrène il y a 20 ans. Il décrit ses symptômes, ses visions, ses traitements, les hôpitaux, la honte, mais aussi les rêves et les rires. Et c'est d'une infinie tendresse.
C'est des constats que je pose, mon regard de grand frère, sur la schizophrénie en général, sur ce que j'en comprends. C'est-à-dire pas grand-chose à l'arrivée. Ça reste toujours aussi cryptique et mystérieux quand j'observe mon frère. Mais grâce à ce bouquin, j'ai pu collecter quelques éléments de réponse. Puis j'ai rencontré des spécialistes. À Sainte-Anne, un chercheur en biologie moléculaire incroyable, qui m'a expliqué qu'il n'y avait pas de schizophrénie identique. Qu'est-ce qu'était une schizophrénie et qu'est-ce qui pouvait déclencher une schizophrénie, quoi.
Je ne connais rien de plus grand que ton grand frère. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais tant combler ce vide immense. Comment faire taire ce bruit qui ressort? Quand c'est le bordel, on aboie en silence.
Avoir un frère schizophrène, est-ce que ça donne un autre rapport au monde?
Ouais, complètement. Ça fait relativiser surtout, et surtout sur ses propres bobos. Puis c'est surtout qu'on se met à se dire qu'est-ce qui est étrange finalement. De quel côté du mur sont les plus fous?
Et dans le froid et la chaud, de l'autre part, je n'ai pas sur la baignoire des gouttes d'eau, lumière d'une bougie noire, éclaire ta belle gueule. D'un parfum qui traverse. Je vous dis pas que je l'aime. Et je l'aime à l'envers.
Et c'est donc la voix de Christophe qu'a choisi de nous faire écouter Guillaume Tranchant. La chanson, c'est « Je t'aime à l'envers ».
Sans doute l'une de ses chansons d'amour préférées. Et puis, c'était pour lui, pour Gringe, l'occasion d'évoquer les moments qu'il a passés avec Christophe. Quelques mois avant sa mort, toute fin 2019, celui-ci lui a fait savoir qu'il voulait le rencontrer. Il l'a invité chez lui, dans son appartement du quartier de Montparnasse.
Et alors là, je pénètre dans une antre, une caverne, avec des bibelots, des peintures, des trucs qu'il a rapportés de ses voyages. Il me dit, tu veux boire un truc? Et je lui dis, non, mais moi, je bois pas. Et t'as faim? Je lui dis, ouais, on va dans la cuisine, toute petite cuisine. Et je commence à lui prendre des biscottes. Et je me retrouve face à ce mec-là, qui me regarde, et qui regarde en moi, quoi. Et puis, passer 10 minutes de conversation un peu en surface, plus de filtre. Donc là, il me fait la visite de son appart, sa piole, son espèce de, ce que j'appelle son vaisseau spatial. Il y a un truc avec des baies vitrées qui donnent sur la rue. Et là, il a toutes ses consoles de son. Et puis, on part à écouter de la musique. On se fait écouter de la musique toute la nuit, quoi. Rebelote, on se revoit une deuxième fois, une deuxième nuit blanche chez lui. On va raconter sa vie, ses rencontres amoureuses, artistiques, humaines, juste, ses amis. Et puis, on s'est plus revus, puisque quelques mois plus tard, il est décédé. Et j'aurais adoré, évidemment, le revoir et repartager des moments comme ça un petit peu hors du temps. C'était magique, ça.
Vous avez l'impression que l'histoire n'a pas été jusqu'au bout, entre lui et vous?
Je pense que c'est un mec que je connais peu, finalement, que j'ai à peine rencontré, mais qui m'a chamboulé.
C'est une chanson qui vous emmène où?
Moi, dans mes propres histoires amoureuses, j'y plaque mes souvenirs, mes images. C'est le pouvoir de la suggestion. Il a sa propre manière de fabriquer les images et ça nous offre à nous la possibilité de projeter les nôtres, quoi. Il y a un truc de très poétique. Puis c'est marrant parce que dans la chanson, par exemple, à un moment il dit, je sais plus, au bord du lavabo, en suspension, de traces de pas. Et donc je vois sa salle de bain et je me dis, est-ce qu'il parle d'une étreinte au bord du lavabo avec son amoureuse ou est-ce que c'est justement une observation de sa chérie qui se brosse les dents? Enfin, je me raconte plein de trucs en fait. Et c'est juste une très très belle chanson d'amour.
Je t'aime à l'envers de Christophe, c'était donc Frédéric, le choix du rappeur Gringe.
Alias Guillaume Tranchant, dont le très beau récit « Ensemble, on aboie en silence » vient donc de paraître en poche chez HarperCollins.
Merci Frédéric Pommier, c'est vendredi, à lundi alors, à la semaine prochaine.
Bon week-end à vous.
h 50 sur France Inter, dernier épisode de notre feuilleton, une semaine dans la vie d'Alice Barbe, 34 ans, entrepreneur social. Il y a 10 ans, cette militante a créé l'ONG Singa pour faciliter l'intégration des réfugiés. En 2018, repérée par l'équipe de Barack Obama, Alice Barbe part aux États-Unis pour un an d'études et c'est cette expérience et les techniques de militantisme apprises auprès de l'ex-président américain qu'Alice Barbe veut transmettre. Elle vient de créer une académie de futurs leaders, démarrage cette année en partenariat avec l'Université américaine de Columbia. Objectif, inciter les activistes à participer, à investir le champ politique et à se faire entendre au sein des partis. Reportage, Antoine Gignot.
Il y a un vide monumental en politique qui a comblé. Les partis ne forment plus, n'attirent plus. Et j'ai moi-même été sollicitée par des partis politiques, plusieurs, très différents d'ailleurs. Et j'ai pas envie d'y aller. Et la vraie question, c'est pourquoi moi, j'ai pas envie d'y aller? Pourquoi les gens comme moi, les entrepreneurs sociaux, les activistes n'ont plus envie d'y aller? Et je pense qu'il y a un gros déficit d'ambition, de formation au sein de ces partis. Alors qu'en face... Parce que je parle de parti progressiste, moi j'incarne des valeurs qui sont progressistes, de justice sociale, environnementale, de démocratie plus éthique, plus transparente. Et en fait, en face, il y a tout le camp identitaire, hyper nationaliste, qui lui se mobilise hyper bien. Quand on voit l'école de Marion Maréchal, quand on voit les camps d'été de génération identitaire, même en Allemagne, l'AFD qui a mis en place des crèches pour les enfants, je me dis, bah oui, eux, ils sont très très forts et ils ont des médias, ils ont une force médiatique, ils font des millions de vues sur Internet, il y a des influenceurs, ils ont des codes ils savent mobiliser. Et le camp progressiste en face, je le trouve très très mou et il est temps de le mobiliser, de l'outiller avec beaucoup plus d'ambition que de faire 3 médias training.
Pour les former, vous vous appuyez sur qui? Les intervenants, les professeurs?
Par exemple, Ben Rhodes, qui a été la plume d'Obama, David Tsimas, son ancien chief of staff, Sanna Marin, première ministre de Finlande, pour que les futurs leaders puissent poser des questions sur, ok, vous vous êtes retrouvés à prendre des décisions sur la Syrie, sur la Russie, sur la Colombie, qui ont eu un impact sur des millions de personnes, sur des millions de vies, comment vous le vivez? Parce que bien sûr que quand on est aux manettes, il y a des gens qui ont pris de sales décisions. Mais se poser la question de pourquoi ils ont pris ces décisions, et moi, si j'étais à leur place, quelle décision j'aurais prise, je pense que c'est très important. Et pour ça, le deuxième pilier est là, pour compléter, sur l'éthique, c'est quoi ma boussole éthique? Et du coup, là, c'est un côté à la fois académique, avec des intervenants de Sciences Po et de l'Université de Columbia à New York. Donc éthique en philosophie, éthique en migration, en intelligence artificielle, tous les grands sujets du 21e siècle, mais aussi une communauté de hackers comme la communauté de WeDoData ou de l'Institut des Futurs Souhaitables, pour pouvoir poser les questions un petit peu pirates et se confronter à un monde moins académique, moins en silo et beaucoup plus terrain et sur l'innovation.
Est-ce que ça veut dire que pour faire bouger les lignes, il faut passer par les structures traditionnelles? Pourtant, vous avez déjà essayé. Si on regarde 10 ans en arrière, Vous êtes qui et vous faites quoi ?
J'ai 23 ans, je travaille à l'Organisation des Nations Unies à Montréal. On voit venir le réchauffement climatique, on sait qu'il est là. Et j'interpelle beaucoup mes collègues de l'ONU qui sont dans ces bureaux, disant mais qu'est-ce qu'on fait là de très concret ? On fait un rapport sur les herbes ayurvédiques. Ah ouais. Dans ces bureaux-là, dans le contexte diplomatique, j'étais plus entourée de gens qui étaient très heureux d'être là où ils étaient, sans trop remettre en question le pouvoir, sans trop remettre en question la corruption dont tout le monde pouvait être au courant ou les violences sexuelles qui pouvaient être perpétrées dans ces institutions. Bon, moi, j'étais là et je me demandais ce que j'y foutais. Ça fait 20 ans, peut-être plus, qu'on se sent de moins en moins représenté. Et moi, je ne peux pas non plus accepter d'être représenté par des gens dont c'est le métier ad vitam aeternam. On ne peut pas dire qu'il y a une légitimité forte à venir du terrain quand on n'a que des gens qui ont commencé très jeunes par être conseiller ministériel, puis député, puis ministre, puis re-conseiller ministériel, puis re-député, puis re-ministre. Il y a un moment, il faut des gens qui ont bossé, qui connaissent les réalités du terrain, qui savent de quoi on parle. Quand on parle des grands défis de notre siècle, les femmes, l'environnement, le racisme systémiques qui ont été confrontés à ça et qui seront représentés parce qu'ils incarnent, parce que derrière eux, il y a des millions de gens qui leur font confiance pour incarner.
Une semaine dans la vie de l'entrepreneur social Élise Barbe, feuilleton signé Antoine Gignot et réalisé par Lucie Le Marchand, à retrouver en intégralité sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire, l'actualité étudiée à la loupe de l'histoire, c'est avec vous, Jean Lebrun. Hommage en ce moment aux Invalides, à Humer Germain, dernier compagnon de la Libération survivant. L'ordre de la Libération va entrer dans une autre époque de son existence. Il est né le 15 novembre 40 et on n'imaginait pas nécessairement en Afrique.
Oui, en Afrique équatoriale française, dans son chef-lieu, Brazzaville. Ce sera plus tard une métropole noire. Et ses 25 000 habitants y coulaient alors une existence sans histoire avant que le général de Gaulle ne décide d'en faire la capitale de la France libre. Oui, la capitale, car Londres, ville étrangère, ne peut l'être. De Gaulle atterrira à trois reprises à Brazzaville, occupant une belle villa aérée dont le jardin descend vers le fleuve Congo, devenu aujourd'hui résidence de l'ambassadeur de France. On ne dit pas assez que la France libre, à ses débuts, tire sa légitimité du ralliement de quelques colonies de l'Empire. L'affaire fut promptement menée aux Nouvelles-Hébrides et dans les comptoirs français de l'Inde. L'ombre portée du Royaume-Uni était telle qu'il n'y avait pas d'autre choix. Ce fut plus difficile mais réussi tout de même en Polynésie. Et en Afrique, le gouverneur Eboué amena le Tchad dès août 40, mais l'opération sur Dakar échoua fin septembre et celle sur le Gabon s'éternisa en combat fratricide jusqu'en novembre. C'est à cet instant que De Gaulle, déçu par les Français vichyards d'Afrique, décida d'un grand lavage d'âme à Brazzaville. C'est de Brazzaville que partira la chevalerie des compagnons. Aujourd'hui, le grand historien de la France libre, c'est un Canadien dont la première spécialité est l'histoire coloniale de la France. Eric Jennings écrit que le prototype du français libre devrait être le soldat volontaire noir qui va faire les grandes campagnes du continent africain, Birakem, El Alamein, la Tunisie.
Des combats auxquels a participé Humer Germain, qu'on honore aujourd'hui et qui dirigeait un groupe d'hommes de la Légion étrangère.
La formule d'intronisation dans l'ordre choisie par De Gaulle est « Nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire ». Il n'est pas indiqué qu'il faille être français. L'ultime compagnon est appelé à rejoindre le caveau numéro 9 dans la crypte du Mont Valérien. Un peu plus haut a été fusillé Manoukian. Était-il français ? Sur 1000 compagnons et plus, une cinquantaine étaient étrangers, une quinzaine africains, et tel d'entre eux aurait pu se trouver à la place d'Humer Germain.
Et tout de même, Humer Germain correspond davantage à un autre prototype du jeune compagnon qu'on a généralement à l'esprit.
Oui, la forte tête, issue d'une bonne famille, insolent, le surcroît, le genre à rendre copie blanche au concours de l'école navale en juin 40, parce que franchement, Frédéric, au moment de la débâcle, il y a mieux à faire que de disserter. Les compagnons étaient souvent de très jeunes gens faits d'un bloc. Il me revient le souvenir de l'un d'eux, né aussi en 1920. Deux vieilles dames d'Erquy dans les Côtes d'Armor, passablement romanesques, m'avaient beaucoup parlé d'un hobereau à peine sorti de l'adolescence qui venait de l'intérieur des terres dans son petit avion de tourisme faire des pirouettes au-dessus de leur maison comme pour leur donner une sérénade. Il s'appelait Maurice Alna Dufretet. Son zinc n'était évidemment pas fait pour franchir la Manche. Pourtant, à l'automne 40, il le mit en état de marche, parfait, dans un hangar de son manoir. Et le jour où le général créait les compagnons à Brazza, il fit raser posait quelques arbres au-dessus de son allée, et la nuit suivante, il décolla, brava la DCA et le sort. Le général le fit compagnon avant même qu'il ne remportât 2 victoires aériennes et ne coulât 4 bateaux ennemis. J'ai visité avec mes 2 vieilles dames la chambre de Maurice au manoir. Une porte ouvrait sur une petite salle d'eau. L'arrière de la porte était couverte de photos jaunies, de vampes, comme il y en avait à l'époque dans les premières revues déshabillées. Les 2 vieilles dames ont versé une larme. Maurice Alna Dufretet, compagnon de la Libération, a trouvé la mort au-dessus de Dieppe lors du débarquement raté du 19 août 42. Il avait exactement le même âge qu'Hubert Germain.
Jean Lebrun, merci à vous. On vous retrouve demain à 18h pour Intelligence Service sur France Inter. Dans quelques instants, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Bidard.
Bonjour Frédéric.
Et vendredi, c'est le club.
Absolument. Ben vous avez tout dit. Voilà, c'est le club dans un instant.
On se retrouve dans quelques minutes.